89.4, como diría en Suiza.
Radio Libertaria 89.4 FM, Radio de la Federación Anarquista.
Slušajte Slobodarski radio na 89.4, Radio bez Boga i Gospodara.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio Libertaire 89.4, The Radio Without God or Master.
Slušajte Slobodarski radio na 89.4, Radio bez Boga i Gospodara.
Rádio Libertária, o Rádio Liberté, 89.4 FM.
Slušajte Slobodarski radio na 89.4 FM, Radio bez Boga i bez Gospodara.
Rádio Libertária, 89.4 FM.
Rádio Libertária, 89.4 FM.
Monsieur le Président, Madame Chirac Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête.
le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gain, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. Si les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, la voix fout de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix à de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix sous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix sous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, bonsoir. Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, je reçois deux journalistes d'investigation. L'investigation étant la mère du journalisme. Madame Rogiata Sall, bonjour.
Bonjour.
Alors, et Leila Mignano, j'ai bien prononcé ?
Oui.
Parce qu'il y a un accent...
Il y a un tilde, oui.
Il y a un tilde, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder deux enquêtes que vous avez menées toutes les deux. La première, ce sont sur les femmes à abattre, les féminicides politiques. Et la seconde, c'est sur la junior pétrolière Perenco. J'ai bien résumé ?
Oui, tout à fait.
Parfait. Alors, mesdames, je vais vous laisser vous présenter. Rogiata d'abord, est-ce que tu peux te présenter à mes auditeurs, s'il te plaît ?
Oui, je m'appelle Rogiata Sall, je suis journaliste depuis 2016 et j'ai notamment travaillé au sein du collectif You Press sur l'enquête sur les féminicides politiques. Je suis pigiste, donc journaliste indépendante. J'ai démarré plutôt sur les questions sociales et les inégalités au sein du Bondi Blog. Et puis, je suis data journaliste aussi, parce que je viens un peu des sciences et j'aime bien faire parler les données dans les papiers. Et voilà, en gros, les thématiques sur lesquelles je travaille. Ouais.
Alors, tu vas peut-être présenter YouPress, ou bien c'est Leila qui va le faire?
Ouais, Leila, je te laisse présenter quand même. C'est quand même une des membres fondatrices.
Ah d'accord, parfait. YouPress, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, YouPress, c'est un collectif de journalistes indépendants. On existe depuis 15 ans maintenant. On est 11 journalistes, photographes, vidéastes. Et il nous arrive de mener des projets collectifs. Donc, comme c'est le cas de Femmes à abattre, ou comme on a pu le faire dans le passé, sur un projet qui s'appelle Zero Impunity, sur le viol comme arme de guerre. Ça permet de multiplier les moyens, le travail, et de faire des projets d'ampleur comme le projet Femmes à abattre.
Alors, Zero Impunity, on les avait reçus, vos collègues. Je pense qu'elles n'ont pas gardé un trop mauvais souvenir.
Complètement, oui.
Voilà. Donc, l'émission est sur le site du groupe Louise Michel. Si vous voulez l'écouter, elle date d'au moins 4 ans. Donc, vous pouvez regarder dans la liste des émissions et vous la retrouverez. Alors, Leïla, à toi de te présenter.
Alors, je m'appelle Leïla Minano, je suis journaliste depuis 15 ans, du coup, comme le collectif YouPress. Donc, je fais partie de YouPress, mais également d'un autre collectif de journalistes européens qui s'appelle Investigate Europe, avec qui j'ai mené l'enquête sur Perenco.
Parfait. Mais tu es aussi l'autrice. Oh là là. Je me tape.
L'auteur avec un E, on a entendu le E.
Oui, ou autrice, mais je préfère autrice. L'autrice de plusieurs ouvrages, dont notamment Blessures invisibles.
Oui, tout à fait, j'ai écrit ou co-écrit plusieurs livres d'enquête, dont La guerre invisible, donc voilà. Aux arènes avec, sur les viols, les violences sexuelles commises par l'armée française, donc avec la journaliste Julia Pasquale. J'ai également écrit, je suis également l'autrice d'un livre qui s'appelle Le sacrifice de Palmyre, chez Grasset. Sur la prise de la ville de Palmyre en Syrie. J'ai également coécrit le livre Zéro Impunity, donc Impunité Zéro, sur les viols commis par les soldats en temps de guerre. Et enfin, Mauvaise troupe, donc sur le recrutement des jeunes aujourd'hui dans l'armée française.
Voilà. Alors, sachant que la Fédération anarchiste, dont fait partie le groupe Louise Michel, fait campagne contre le SNU. Donc, c'est pour ça que Mauvaise troupe, on l'avait vu passer avec intérêt. Et quand j'ai dit que je te recevais, alors là, j'ai eu beaucoup de commentaires favorables à ta venue.
Merci.
Voilà. Bon, Femmes à abattre. Mars 2023. Moi, je l'ai vu dans Mediapart, parce que Mediapart est partenaire de YouPress.
Oui, Rotia. Tout à fait. Ouais. Donc l'enquête a été publiée à partir du 8 mars. Oui. Et donc c'était une série de six papiers qui racontaient un peu l'ampleur de ce que nous on qualifie de féminicide politique. Et Mediapart a été notre premier partenaire sur ce projet. Il y en a eu d'autres en Belgique notamment. Qui nous ont soutenus et financièrement ou alors publié les papiers derrière ces derniers mois, quoi. Mmh. Il y avait la déferlante, on avait aussi la déferlante en partenaire où on a publié donc dans cette revue féministe qui existe depuis quoi, 2 ans, non, 3 ans peut-être, je pense que ça doit être le 12e ou le 13e numéro. Mmh. J'espère que je ne me trompe pas, mais dans cette revue on a publié une enquête notamment sur Diana Sakayan, une personne qui figurait dans notre base de données de féminicide politique. Ouais.
Alors, Femmes à abattre. Déjà le titre, ça nous a interpellés, nous les féministes. Et quand on a découvert que vous avez enquêté sur quelque chose comme près de 300 cas, 287 très précisément, dans 58 pays, et vous étiez que 10 journalistes à faire cette enquête, on s'est dit bravo pour le boulot.
Merci. Mais oui, on a travaillé longtemps. En plus, moi, l'enquête avait déjà démarré avant même que j'arrive dans le collectif YouPress. Donc, je ne sais plus c'est en quelle année où il y a eu les prémices. Peut-être que tu peux revenir sur les débuts, puisque je n'étais pas encore là. Mais
je pense que ça s'est développé. Après, on n'a pas travaillé non plus à plein temps pendant toutes ces années là-dessus. Ça n'aurait pas été très rentable, je pense, du compte. Mais on commence à travailler sur les féminicides politiques, je pense, en 2018-2019. Voilà. Et ensuite, on fait le travail de défrichage. Et puis, on se met à enquêter vraiment frontalement, je pense, à l'année 2021, non? À peu près ça.
En 2021, ouais, c'est ça. Et enfin, tout de suite, on s'est aussi, comment dire, réparti dans différentes sous-équipes pour qu'il y ait des personnes qui travaillent surtout sur la théorie, qui fassent des recherches un peu sur les chercheuses, et j'allais dire les chercheurs,
les femmes.
Surtout les chercheuses qui travaillent sur les violences faites aux femmes en politique ou dans la société civile.
Oui.
Et donc, on avait donc cette petite équipe qui travaillait plutôt sur la théorie, aussi sur les textes de loi qui existaient en Amérique latine, davantage qu'en Europe, etc. Moi, je travaillais plutôt avec Hélène Molinari dans l'équipe data, c'est-à-dire que nous, en fait, on a épluché des centaines et des centaines d'histoires d'assassinats de femmes engagées pour voir si ça correspondait à ce que nous on a défini comme un féminicide politique, à savoir il faut que ce soit une femme qui est tuée et parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est engagée
politiquement,
donc, et en raison de son genre et en raison de ses activités politiques,
quoi. Voilà, il faut les deux.
Oui.
Et là on peut le qualifier de féminicide politique. Là,
c'est la définition qu'on a décidé de retenir pour poursuivre le travail, parce que c'est vrai que c'était tellement vaste qu'à un moment, il a aussi fallu qu'on resserre un peu les choses.
Voilà. Alors, on va faire un peu de statistiques, parce que j'ai lu tous les articles, j'ai décortiqué, ils sont passionnants à lire. Dans un tiers des cas, donc 82 cas, de 2010 à 2022, il y a eu des modes opératoires de genre. Et vous avez commencé à travailler sur deux bases de données, HRD Mémorial et AVID.
Oui,
est-ce que tu
ça.
Peux les présenter, s'il te plaît?
Oui, alors c'est deux ONG qui rendent hommage aux militantes qui sont assassinées et qui publient des portraits pour raconter, enfin qui sont assassinées, pardon, qui sont mortes, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont mortes naturellement dans cette base de données, mais en tout cas qui rend hommage aux femmes engagées dans la vie publique ou en politique, avec une base de données qu'ils mettent à jour assez régulièrement. Et nous, c'est des endroits où on a été éplucher les histoires pour voir comment est-ce qu'elles avaient été tuées, pour voir si elles avaient, enfin, si vraiment leur activité politique et leur genre étaient la cause de leur assassinat. Donc c'est ces bases-là qui nous ont permis de démarrer. Après, ça a été un travail de veille un peu classique et de recherche avec des mots-clés sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais parce qu'on a travaillé en source ouverte depuis Paris sur des histoires qui se passait partout dans le monde. Et si je peux juste revenir sur le chiffre de 82, parce que donc nous, on a ces 82 féminicides politiques avérés, mais il y a aussi des centaines d'autres histoires qu'on a épluchées, où on a un faisceau d'indices qui nous fait penser que c'est un féminicide politique, mais on n'a pas forcément
Preuve ultime.
C'est ça.
C'est la pointe émergée de l'iceberg, mais c'est pas tout à fait l'iceberg.
Exactement.
En entier. D'accord, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que je veux dire? On va commencer... Ah oui, il y a une autre base de données, c'est Remembering Our Dead. Et là... CLFD, j'arrive plus à me relire.
Alors, la première, c'est surtout une base de données qui concerne les personnes trans.
Voilà.
Et la deuxième, à CLED, eux sont surtout spécialisés, c'est aussi la définition qu'ils ont choisi d'employer pour travailler sur les violences qui sont faites aux personnes engagées en politique, ou même pas forcément engagée, parce que c'est-à-dire qu'une personne qui est agressée en allant voter, par exemple, peut rentrer dans
cette catégorie,
dans le critère. Mais ils épluchent partout dans le monde, ils ont des correspondants partout dans le monde pour éplucher toutes les affaires et toute la presse locale sur toutes les affaires d'agression, de violence, d'assassinat.
D'accord.
Qui sont en lien avec la politique.
Alors, donc, on peut dire à ce moment de l'émission que les catégories les plus ciblées, c'est d'abord les militantes, et ensuite c'est les défenseuses des causes sur les personnes, et après c'est les LGBTQ+, celles qui s'occupent de l'environnement et l'accès à la terre.
Mmh.
On va décortiquer certains cas qui ont été évoqués dans les articles, mais c'est bien ça, hein, je ne me suis pas trompée.
Oui, c'est ça, ouais, on s'est rendu compte que, évidemment, en premier lieu, c'était surtout les... que c'était surtout les défenseuses des droits des femmes qui étaient visées dans les affaires qu'on a pu éplucher, aussi les défenseurs des droits LGBTQI+. Et des droits humains, c'est une catégorie qui est un peu vague, parce que ça peut être à la fois des leaders communautaires en Amérique latine qui défendent tout simplement leurs terres.
Et leurs droits à hériter. Leurs droits à hériter, oui, de ces terres.
Face aux industriels, comme en Philippines, pareil. Enfin, il y a à la fois la défense des droits des personnes autochtones qui parfois rejoint aussi celle de l'accaparement des terres par les industriels et autres grands méchants.
Alors, quand on connaît les assassins, 100% d'entre eux sont des hommes. Pourquoi je ne suis pas étonnée?
Bonne question. En tout cas, ça ne nous a pas étonnés, mais comme c'était le cas, pour nous, c'était important de le préciser, quoi. C'est-à-dire qu'on a très peu, il y a souvent très peu d'enquêtes qui sont bien menées pour pouvoir trouver les agresseurs ou les assassins, et quand elles le sont, et il y a très peu, il y a très peu de condamnations, et puis mais par contre, à chaque fois que l'agresseur est retrouvé, on sait que c'est un homme, quoi.
Bien. Alors, on dit qu'on ne peut mourir qu'une seule fois, mais en fait, ces victimes, elles sont tuées plusieurs fois. Parce que vous avez dit dans vos articles, mesdames, qu'il y a des campagnes de diffamation à leur encontre, qui a un effet désastreux, parce que du coup, la société civile, leurs familles, leurs amis, se détournent d'elles ou les considèrent comme une source de honte, et du coup affaiblit leur défense et les met à la merci de leurs agresseurs. C'est bien ça.
Oui, c'est ça. Il y a pas qu'une mort, il y a aussi l'utilisation de la communication pour discréditer ces femmes, discréditer leur combat, ça va être une succession de petites morts quand on va mentir sur ce qu'elles sont en disant que, enfin, c'est plus, tu peux peut-être rebondir sur la fin, sur comment est-ce qu'on s'allie.
C'est Karina Garcia. Si vous rappelez précisément son dossier.
Alors,
en Colombie.
Tout à fait. Donc, Karina Garcia, c'est une élue locale colombienne, par ailleurs d'un parti de droite, qui va être l'objet donc d'une campagne de diffamation très forte à son encontre et qui va être menacée. Plusieurs fois, donc directement, mais également sur les réseaux sociaux, et sans trouver aucun relais de la part des services de police, de la part de la justice qu'elle va saisir, donc elle va porter plainte, etc. Et elle va être absolument pas considérée, pas prise en considération. Son enfant, elle a un petit garçon, donc il va être également menacé. Et donc, elle va être réduite au point de devoir lancer un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Donc, elle va lancer un appel sur Facebook en disant voilà ce qui va m'arriver, voilà ce dont j'ai peur, les menaces dont je suis l'objet. Et malheureusement pour elle, c'est ce qui va se produire quelques jours à peine. Après avoir tourné cette vidéo, elle va être l'objet donc d'un assassinat dans sa voiture de fonction, alors même qu'elle était un peu protégée de manière assez malheureusement pas satisfaisante par un service de sécurité. Ses ennemis politiques vont tirer à plusieurs reprises sur son véhicule et elle va être assassinée.
Alors, c'est ce que vous avez appelé l'overkilling, c'est-à-dire surtuer et faire c'est un crime de propriété, et c'est 43% des cas.
Exactement. Grâce à cette base de données, donc inédite, c'est la première base de données qui recense les assassinats politiques, les féminicides politiques à travers le monde, on va se rendre compte que près de la moitié des femmes assassinées vont être ce qu'on dit surtuées, donc en anglais c'est overkilled. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on ne va pas se contenter d'une balle ou d'un coup de couteau, mais ça va être des dizaines de coups de couteau, de nombreux coups de couteau, de nombreuses balles, parfois avec des mutilations génitales, des mutilations sur le visage, etc. L'idée, effectivement, c'est de défigurer, de faire disparaître ces femmes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement les silencier, mais on veut également les salir jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'avant la mort, déjà, on va essayer de salir leur image en les dégradant, en lançant des fausses rumeurs sur leur réputation, parce que quand il s'agit de femmes, c'est toujours les mêmes ficelles qu'on tire. C'est-à-dire que voilà, on va dire que c'est des femmes qui sont infidèles, qui se prostituent, etc. Tout ce qu'on peut faire des photomontages, on va tenter de salir leurs images pour empêcher qu'elles deviennent des égéries politiques, pour empêcher qu'elles deviennent des martyrs, hein, ce qu'on dit, faut des martyrs de leur cause, donc on va les salir avant de les assassiner. Mais même après leur mort, on va essayer de dégrader leur image. Et c'est un peu tout l'objet de Femmes à battre, c'est de montrer en fait qu'il y a un mécanisme commun. On présente aujourd'hui ces assassinats politiques comme des faits divers qui ont lieu peut-être en Amazonie, peut-être en Angleterre, etc. Mais tout ça, c'est la même logique. C'est la même logique, c'est partout pareil. On essaye de faire sortir les femmes de l'arène politique. Et pour ça, on a entendu parler du cyberharcèlement beaucoup récemment.
Oui.
Mais en fait, parfois, elles meurent. Parfois, elles sont également assassinées. Quand elles disent « j'ai peur », on leur dit « éteins ton ordinateur et tu seras tranquille chez toi », c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont assassinées pour avoir osé monter dans l'arène politique.
Alors, on parle... Vous avez donné un autre exemple, c'est les sœurs Mirabal à Saint-Domingue. Les sœurs dominicaines.
Tout à fait. Donc là, on est dans un exemple qui est historique, donc qui est présenté par le courant féministe, comme le premier féminicide de l'histoire. Donc les sœurs Mirabal, qui étaient donc là, on parle de deux militantes à Saint-Domingue, si mes souvenirs sont bons, donc qui ont été assassinées par le pouvoir en place. Comment il s'appelait
Le président. Oh, j'ai oublié de le noter. Aïe, aïe, aïe.
Exactement.
Et bon, ça va m'en revenir.
Voilà. Et donc, nous, ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, il y avait un biais de genre dans cet assassinat, que l'une des sœurs Mirabal avait effectivement refusé les avances de ce président, que du coup, qu'il a... Et effectivement, on montre ce biais de genre, ça fait partie des exemples historiques qui sont mis en avant dans notre enquête. Après, la base de données, on s'est limité à 10 ans, parce que bon, on ne peut pas non plus remonter à toute l'histoire, mais... on est persuadé qu'il y en a encore d'autres dans l'histoire. La chasse aux sorcières, elle date pas d'il y a 10 ans.
Ah
mais
non.
Nous, pour être capable de tenir un peu les délais, on s'arrêtait sur 10 ans.
Alors, la mise en scène de la mort, vous dites dans un des articles, c'est un avertissement aux autres, surtout dans les cas du droit à hériter dans le foncier, pour qu'elles ne viennent pas récupérer leurs droits, en fait.
Oui, c'est ça. C'est enfin le fait, enfin de mettre en scène la mort, c'est enfin souvent aussi exposer le corps dans l'espace public pour tuer aussi la lutte derrière, pour empêcher que les serres de lutte continuent. Et puis ça arrive en fait parfois quand on a une de ces consoeurs qui se fait assassiner, on arrête tout bonnement l'engagement. Et là, ils ont gagné parce qu'en fait ils ont réussi à sortir les femmes de l'arène publique. Et dans plusieurs histoires qu'on a épluchées, effectivement, le corps est exposé publiquement pour faire peur aux autres. Quoi.
Alors, je pense au cas de Dina Ochea, dans l'État du Mexique. Et c'est une jurisprudence historique pour le cas de suicide douteux.
Exactement. Donc du coup, Digna Ochoa, militante des droits politiques au Mexique. Donc là, on est dans une histoire qui date il y a longtemps, des années 2000, mais qui a donné lieu à une décision de la Cour interaméricaine des droits humains qui va être historique, parce que pour la première fois dans le monde, le biais de genre va être reconnu par une cour. C'est-à-dire que les juges vont estimer que les enquêteurs, les policiers ont enquêté et que leur enquête était biaisée par le genre. Alors que c'était une militante reconnue des droits politiques dans son pays, les policiers vont systématiquement tenter de la faire passer pour une personne instable psychiquement. C'est-à-dire qu'on va dire, alors elle était un peu déprimée, elle avait une rupture difficile avec son conjoint,
elle était suivie par un psychologue. psychologue, pardon.
Exactement, alors qu'elle avait été déjà violée par, et avait subi plusieurs pressions, etc. Mmh. On va essayer de la faire passer pour quelqu'un d'instable psychiquement, mais également sur la sphère amoureuse. C'est-à-dire mmh. toujours les mêmes biais, mmh. les mêmes ficelles qu'on va tirer pour décrédibiliser la militante, empêcher d'en faire une martyre. Et là, en l'occurrence, ça va aboutir au classement du dossier, puisqu'effectivement, c'est un suicide pour la version officielle. Mmh. C'est, on aboutit sur un suicide, alors qu'effectivement, il y a un ouvrage qui va être fait par une journaliste enquêtrice canadienne qui va prouver que eh ben, c'est un suicide déguisé, en fait. C'est mmh. un meurtre déguisé en suicide et que bah, le biais de genre a empêché les policiers de faire correctement leur travail.
Alors, donc, du coup, du suicide douteux, on peut arriver à la catégorie ultime qu'on va écouter, qu'on va aborder avant la deuxième partie, qui est les féminicides intimes. Et je pense au crime de propriété de Shana, de Shaina Shaen, au Pakistan. Au Pakistan, oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. J'ai mal écrit son nom.
Shaina Shaheen, ouais.
Mais oui, Shaheen. Voilà, c'est moi qui prononce mal. Excusez-moi.
Sur le crime d'honneur, c'est pareil. C'est des, enfin, oui. c'est des découvertes qu'on a fait à la fois et en épluchant un peu les travaux de recherche sur la question et en commençant à voir des choses ressortir de notre base de données qui était très mouvante en fait. On n'arrêtait pas de rajouter des colonnes en disant « Ah oui, mais alors ça fait plusieurs fois qu'on l'a vu, peut-être qu'il faut le regarder davantage à la loupe. » Donc on déplaçait un peu notre loupe comme ça et on a commencé à voir plusieurs cas de femmes qui sont tuées par leur conjoint, qui peut être le bras armé du pouvoir politique.
Tout à fait. Et c'est le cas dans ce cas-là.
Les crimes intimes, les crimes d'honneur, dans certains pays où elles peuvent être assassinées par leur conjoint ou un membre de leur famille parce qu'elles ont sali l'honneur de la famille.
Entre guillemets.
Entre guillemets. Et on a eu plusieurs histoires comme ça, et aussi le féminicide conjugal. Certaines affaires qui ont l'air, encore une fois, présentées comme un fait divers de un mari jaloux qui tue
sous l'emprise de la colère,
sa petite femme, alors que derrière, il y a exactement les mêmes critères que ce qu'on voit dans d'autres féminicides politiques, à savoir soit la manière dont on l'a tué ou la raison pour laquelle on l'a tué est liée au genre, quoi.
Alors, le dernier cas qu'on va aborder, peut-être, c'est celui de Madame Sarah Egazi. Elle, je me rappelle d'elle, sa photo a fait le tour du monde, brandissant un drapeau LGBT. Elle a subi des tortures pendant 3 mois. Elle a réussi à avoir l'asile politique dans un pays de l'Europe du Nord, et elle s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'a pas survécu à l'épreuve. Donc, c'est ce que vous appelez le suicide forcé.
Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est encore, je pense, un tabou, quelque chose qui est encore pas assez enquêté. Mais effectivement, le geste final est donné par la personne elle-même, donc par, en l'occurrence, par la militante elle-même. Mais elle a fait l'objet de tellement de maltraitance auparavant, mmh. de pression tellement forte contre elle et contre sa famille, qu'elle en est réduite à ce geste extrême. Voilà. Et donc, du coup, on n'a pas voulu les sortir de l'analyse. Non. Parce que, effectivement, quand pendant 3 mois on vous torture, quand les pressions s'arrêtent jamais, même quand on trouve l'asile, je crois que c'était au Canada, et qu'on est suivi, la situation devient plus possible, plus vivable pour cette personne. Et donc, eh ben, elle finit par se suicider. Et effectivement, le suicide forcé fait également partie de notre scope d'analyse.
D'accord. Alors, nous allons faire une pause musicale. Vous avez choisi un des titres, je ne me rappelle pas lequel c'est. Kendong va le passer. Merci Kendong. Et nous allons revenir sur les autres catégories de féminicides politiques.
Ça marche. Thank you.
todas las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia,
justicia,
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission sur les féminicides et sur la Junior Perenco avec Rogiata Sall et Leila Mignano. Alors, nous allons commencer cette deuxième partie sur les féminicides politiques par le cas de Rio Marcel Marielle Franco. Au Brésil, l'opposante à Bolsonaro, qui a été assassinée d'une façon sauvage.
Oui, tout à fait. Donc Marielle Franco, qui est un peu un cas emblématique, donc cette militante des favelas, donc qui se battait contre les violences policières, mais également contre le racisme d'État. Elle était également féministe et AFE, enfin de, et également elle se battait pour les droits des LGBTQ. Donc elle était élue locale de Rio de Janeiro, mais son aura est dépassée largement les frontières, puisque c'est même devenu une égérie féministe pour le monde entier aujourd'hui, donc qui a été assassinée d'une balle, de plusieurs balles d'ailleurs, contre son véhicule par deux militants
du parti de Bolsonaro.
Exactement, donc sans jamais que les commanditaires réels n'aient été inquiétés. Eux ont été arrêtés, mais les commanditaires réels, dont on peut supposer qu'ils font partie de la sphère de Bolsonaro, n'ont jamais été arrêtés. Donc effectivement, Marielle Franco, c'est pas un cas, c'est un cas qu'on cite notamment beaucoup, puisque son, en dépit de toute cette tentative de salissure de son image, etc., Marielle Franco a réussi à et son assassinat a réussi à déboucher sur l'engagement de dizaines de femmes derrière elle, donc
dans sa campagne.
dont sa compagne, qui à la base n'était pas des militantes ou des élus, qui ont décidé, et même sa sœur, qui ont décidé de reprendre le flambeau et de se battre sur les mêmes bases programmatiques que Marielle. Donc je pense que même le gouvernement de Bolsonaro ne s'attendait pas à un tel mouvement, un tel élan de solidarité après son assassinat. Et en fait, ça a donné des milliers, des dizaines de milliers de gens dans la rue, et ce qu'on appelle des graines, en fait, des graines et des héritières à son combat.
Alors, en fait, ils voulaient dépolitiser l'assassinat, et ils ont obtenu l'effet inverse. Il y a des femmes comme ça qui sont plus emmerdantes mortes que vivantes, à la limite, on va dire. Et j'ai un cas qui passe actuellement au tribunal. C'est celui de Madame September, Dulcie September, la représentante de Monsieur Mandela de l'ANC à Paris. Il y a son avocat qui est au tribunal, donc j'ai une pensée pour la famille que j'avais reçue dans l'émission. Voilà, ceci étant dit, on va passer à Elisabeth Ekaru. Là, on va de l'Amérique du Sud à l'Afrique de l'Est. Et là, on va sur les problèmes d'héritage foncier particulièrement. Qui était Elisabeth Ekaru ?
Mais alors, Elisabeth, c'était une militante kenyane, et c'est notre collègue Sophie Boudboul qui a travaillé sur ce cas en particulier, qui s'est rendue au Kenya. Et en fait, c'était la dernière d'une série d'assassinats d'activistes. C'était pas la première, mais en tout cas, c'était la dernière dont il y avait le procès, où elle s'est rendue en décembre dernier. Et c'est vrai que ce papier, il permet aussi de raconter la lutte, elle est toujours en cours, quand on voit toutes les militantes qui étaient présentes au tribunal pour soutenir la famille d'Elisabeth, mais aussi le nom de toutes les militantes qui ont été assassinées juste avant elle. Il y avait Johanna Stutchbury, Esther Mwikali aussi, une paysanne qui luttait contre l'accaparement des terres et qui a été violée et tuée en 2019. Il y a eu Caroline Mwata qui a été assassinée la même année, qui elle se battait contre les violences policières. Et d'après ses proches... c'est un meurtre déguisé, parce que c'est présenté comme un avortement qui aurait mal tourné quoi. Ouais. Et donc voilà, au Kenya, il y a eu tous ces féminicides que raconte Sophie. Donc c'était le deuxième volet de l'enquête sur Mediapart. Ouais.
Voilà. Alors, il y a une phrase que disait Elisabeth que j'ai retenue et que je vais lire pour les auditrices et les auditeurs. Nous devons surmonter nos peurs, parce que la peur est la pire ennemie de l'émancipation et de l'empowerment des femmes. Tout est dit. Voilà.
Oui, c'est vraiment... Elle a senti, quand elle était en reportage aussi là-bas, la puissance des liens entre toutes ces sœurs de lutte, quoi, et qui sont là aussi pour que ce soit le dernier, parce qu'elles sont toutes menacées, elles subissent toutes le même continuum de violence qui démarre par la menace et qui peut aller jusqu'à l'assassinat.
Elles sont soutenues par Defenders Coalition, c'est ça, hein?
Oui.
Le mouvement où il y a des avocats, des membres de la société civile, et surtout les avocats qui se battaient déjà pour qu'il y ait pour que le procès ait bien lieu, parce que, comme par hasard, ils ont essayé de faire comme si le procès n'était pas enregistré.
Ça, il y a eu plein de problèmes judiciaires. Et elle a rencontré aussi ses avocats qui sont bénévoles militants, qui aussi essayent de faire reconnaître qu'elle a été surtuée, Elisabeth, parce que la manière dont elle a été tuée, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'overkilling. Elle a reçu des coups, on dit des coups d'épée, c'est un truc de traduction, mais bon, des coups d'armes blanches dans des endroits du corps qui font penser que c'est aussi son genre qui était visé dans cet assassinat.
Ouais. Alors, nous allons venir à Paris pour aborder une catégorie de femmes féminicides, celle des femmes trans, avec le cas de Vanessa Campos, que les auditeurs doivent peut-être connaître, parce qu'il y a des émissions qui en ont parlé à Radio Libertaire. Alors, le problème de ce dossier, c'est une discrimination fondée sur l'identité de genre et un crime de haine. Tout ceci devait être inscrit dans le procès, et ça n'a pas été le cas. Pourquoi ?
Et pour le coup, Vanessa, oui, donc c'est, pardon, je m'appelle par son prénom, Vanessa Campos, c'est une des rares affaires qui va jusqu'au procès, parce que voilà. Sur les 82 féminicides politiques qu'on a identifiés, il y a 15% des cas qui arrivent à ce stade-là, donc c'est un bon contre-exemple. C'était cette année, et là, la difficulté déjà, c'était... De montrer aussi que oui, elle défendait aussi les travailleuses du sexe qui étaient avec elle. Elle était leadeuse parce que justement, c'est aussi elle qui était à l'origine d'employer un vigile pour les protéger des clients
et des gangs,
clients dangereux
et des gangs qui voulaient remettre la main sur elle.
Exactement, et des personnes qui venaient racketter aussi les clients. Ou Bois de Boulogne, quoi. Et donc, oui, enfin, ce qui se passe, c'est qu'elle a été tuée parce qu'elle était aussi plus visible que les autres, parce qu'elle défendait les autres, elle défendait ses sœurs travailleuses du sexe.
Alors, dans le procès, il a été mis en avant le fait que l'endroit où elle travaillait était d'autant plus dangereux que la police n'y venait jamais parce que la police est homophobe. Elle est transphobe et donc elle ne vient pas protéger ces travailleuses du sexe.
Oui, j'avoue, je me souviens plus précisément des détails du dossier parce que
j'ai noté dans ma petite fiche.
Non, mais c'est vrai que l'association ACT UP TST, qui est une association qui défend les droits des personnes trans, met en avant les violences policières dont sont victimes en particulier les travailleurs de sexe, travailleuses du sexe trans, notamment au Bois de Boulogne, et le laisser-faire, l'impunité quand elles-mêmes signalent et des déposent plaintes auprès de la police. C'est clairement pas des victimes prioritaires.
Ah non.
Pour les forces de police.
Ça me revient. Il y a aussi, les débuts de l'enquête judiciaire, ça a été catastrophique. Quoi. Il y a des témoins qui n'ont pas été interrogés. Il s'est passé beaucoup trop de temps pour pouvoir avancer sur l'affaire au tout début.
Ça a été un miracle qu'on mette la main sur les meurtriers. Un petit miracle. Voilà. Donc, en Turquie, on peut signaler les cas de Hande Kader et en Afrique du Sud, de Nare Mfale.
Nare Fela. Oui, c'est ça. Hande Kader, en Turquie, c'est pareil. C'est quelqu'un qui avait été très, très visible sur le devant de la scène parce qu'elle faisait partie des organisateurs des Pride à Istanbul. Et donc, sur le devant de la scène, il y avait sa photo qui avait circulé un peu partout dans le monde au moment où il y avait une manifestation, enfin une Pride qui avait été annulée à la dernière minute.
Tout à fait.
Par le pouvoir
d'Erdogan.
En place, quoi. Et son corps a été retrouvé au bord d'une route. Et Narem Fela, c'est pareil, elle avait, il me semble, quand elle était lycéenne, elle avait porté plainte contre son établissement scolaire pour transphobie, un procès qu'elle avait gagné et qu'elle était vraiment très 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 visible et identifiée. C'est pareil, on l'a retrouvée dans une chambre d'hôtel, surtuée elle aussi, avec son cadavre qui a été brûlé, mutilé.
Alors, nous allons aller ensuite en Afghanistan, où là, c'est le sous-titre du paragraphe, c'est l'école ou la mort. Tout est dit. Et on va aborder le cas de Fatima Amiri, qui actuellement se fait soigner en Turquie, justement. Alors, est-ce que vous pouvez la présenter ? Qui la présente, laquelle de vous deux ?
Alors, Fatima Amiri, donc, qui était une jeune lycéenne qui, en Afghanistan, du coup, se battait notamment sur les réseaux sociaux pour défendre le droit à la scolarisation des filles, donc un droit qui était mis en péril par l'arrivée
des
talibans au pouvoir, donc un droit qu'elles avaient fini par gagner, mais au final qui était complètement remis en cause. Et donc elle et sa camarade de classe, elles défendaient sur les réseaux sociaux ce droit-là, et alors que les menaces étaient prégnantes, elles ont quand même continué à se rendre en cours. Malheureusement, elles ont été victimes d'un attentat, donc du coup, l'assaillant est entré dans la salle de classe et a clairement visé seulement les femmes, les filles qui étaient dans la classe.
On avait mis à l'écart des garçons. Donc déjà, ils pouvaient tranquillement ne fusiller que les filles, puisqu'elles étaient mises à l'écart des garçons. Donc déjà,
exactement.
On lui avait facilité la tâche.
Cette séparation avait permis l'assaillant le terroriste, de tuer seulement les femmes qui se trouvaient, les jeunes filles qui se trouvaient dans la classe. Donc du coup, pour nous, ça c'est aussi important de mettre en avant, puisque c'est pas de cette manière-là que va le relater la presse. Non. C'est-à-dire que là, il y a clairement un biais de genre qui est quasiment indiscutable. C'est-à-dire que le fusil de l'assaillant va se tourner que vers les jeunes filles, alors qu'il y a quelques étudiants masculins. Et donc du coup, cette preuve-là, elle va montrer, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que les femmes activistes sont tuées non seulement parce qu'elles sont des activistes, mais également parce que sont des femmes.
Bien. Alors, elle dit ceci, Fatiba Amiri, je l'ai noté, mieux vaut mourir que vivre dans l'ignorance. Alors, il faut préciser, et vous avez donné comme statistique, que 3,5 millions d'enfants sont non scolarisés, et dedans, il y a 85% de filles. Donc tout est dit pour l'Afghanistan, qui a été frappé par deux séismes de grande intensité il y a peu.
Et pour revenir sur l'Afghanistan, c'est aussi des questions qu'on s'est posées sur ce que c'était qu'un féminicide politique collectif, quoi. Là, c'est pas une personne qui est visée, c'est toutes celles qui osent aller à l'école. Et voilà, pour nous, c'était important de le préciser, parce qu'il y a eu d'autres précédents dans d'autres pays. Je repense à cette histoire au Canada, tu te rappelles de...
Oui, à Polytechnique, les femmes qui ont été tuées.
C'est tout à fait. Nous, on a commencé à travailler sur des affaires à partir de 2010, parce que c'est aussi l'année où l'ONU s'est officiellement inquiétée sur les assassinats des défenseuses des droits humains. Mais là, c'est pareil, c'est une affaire qu'on aurait pu
Elle est célèbre au Canada. C'est même parmi les féministes, c'est un des premiers qui a marqué les esprits dans cette partie-là du monde.
Avec la particularité que au Canada, le fait de aller à l'école ne constitue pas un acte militant. C'est ça qui aurait pu nous poser question, alors qu'en Afghanistan, dans ce contexte actuel, c'est un acte militant juste de se rendre à l'école.
Tout à fait.
Et par ailleurs, ce qu'on découvre aussi en Afghanistan, c'est juste le fait d'être journaliste de télévision en Afghanistan et d'être une femme, c'est déjà un acte militant. Alors qu'ici, bon, non.
Faire du vélo, je crois qu'on avait aussi cette discussion. Faire du vélo, c'est être militant dans certains pays.
Alors, la conclusion de l'article sur l'Afghanistan est ceci, elle fait froid dans le dos, mais elle est concrète. À savoir que la suppression des femmes de l'espace public est le préalable à leur mort, physique et morale. À leur mort tout court. Tout est dit.
Tout à fait. On va les faire disparaître, ça sera le premier pas. Et ensuite, elles rentreront à la maison et on pourra potentiellement, effectivement, les tuer, les maltraiter dans le silence, puisque leur porte-parole aura été invisibilisée.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve quel que soit le profil des agresseurs, quoi, que ce soit des pouvoirs politiques fascistes ou des ennemis politiques qui sont pas dans le même camp, quelqu'un de la famille, enfin toujours avec cette similarité et cette volonté ultime de les sortir de l'espace public, quoi.
Voilà. Alors, dernier cas, une femme dont j'ai appris le combat lorsqu'elle a été tuée. J'en avais entendu parler parce qu'elle luttait contre la sortie, contre le Brexit. C'est la députée Jo Cox, en juin 2016, qui est assassinée. Et ça a eu des répercussions jusqu'à présent dans la vie politique britannique, cet assassinat. Et vous le décrivez très bien dans l'article. Cette femme était engagée en politique pour améliorer la vie de tout le monde, pas seulement les Britanniques, de tous ceux qui vivent dans la Grande-Bretagne. Et elle a fini en tant que féminicide politique. J'aimerais que vous présentiez Jo Cox et que vous présentiez la spécificité de ce dossier. Mm-hmm. Toutes les
oui,
deux, s'il vous plaît.
Député Travis qui a été assassiné, c'était en 2016, dans la rue, par l'extrême droite. Hein,
dont voilà, par un militant de l'extrême droite.
Juste avant, et en fait... c'était des gens qui supportaient pas son discours sur l'immigration qu'elle présentait comme quelque chose de bénéfique pour la société plutôt que l'inverse et voilà du coup elle a été victime de son engagement à ce moment-là et ça a été très violent aussi pour toutes les élues politiques qu'il y a pu y avoir parce que elles ont vécu encore une fois je répète le continuum de violence spécifiques et elles ont été menacées comme Jo Cox a été menacée mais là elles ont la preuve devant les yeux qu'en fait on peut les tuer on peut aller jusqu'à
les tuer pour leurs idées
et du coup enfin il y a eu un vent de panique parmi les élus à cette période là quoi ça a été
et beaucoup ont démissionné justement
mais encore une fois dans la présentation de son assassinat à l'époque donc un loup solitaire néo-nazi, etc., donc qui va l'assassiner plusieurs coups de couteau, on va occulter le fait que dans ses lectures, il y avait, et c'est ce que le travail d'Anne-Laure Pinault, la journaliste qui a fait le travail, va montrer, tout un pendant anti-femme très présent. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait de la colère contre les femmes qui étaient mariées avec des personnes noires, des personnes arabes. Il avait des textes où il disait que les femmes comme ça, il fallait les pendre, etc. Il y avait tout cet aspect-là. Il n'a pas tué Jo Cox parce qu'elle se présentait là.
Non.
Et donc, du coup, pour nous, c'est important
de montrer ça. C'est un aboutissement de sa haine.
Exactement. Il n'aimait pas son combat pour les personnes migrantes. Il n'aimait pas son combat pour le Brexit. Mais aussi, il n'aimait pas que ce soit une femme qui porte ce combat à la faveur des personnes migrantes. Et voilà. Et c'est tout ce travail-là qui a été fait par Anne-Laure Pinault sur l'enquête sur Jo Cox.
D'accord. Alors... une fois que vous avez travaillé sur tous ces 287 cas, déjà, vous avez le cœur bien accroché. Parce que franchement, il faut dire que pour les quelques que nous avons abordés, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des centaines qui sont mortes. Il y a des centaines de féminicides qui n'arrivent pas jusqu'à nous, parce qu'on ne le sait pas, parce que les familles ne le déclarent pas, parce que la police ne fait pas son travail, ainsi de suite. Et la société civile n'est pas au courant. Bien. Donc, on a examiné le modus operandi de leurs assassins pour que cette partie-là de l'émission, les gens ne sortent pas complètement désespérés. Quel est le message d'espoir et de combat ? Parce que j'ai cité les phrases de ces femmes qui disent « Mieux vaut la mort que ne pas aller à l'école, que l'ignorance. Ouais. » Il ne faut pas avoir peur. Ces femmes, elles ont le courage. De toute façon, on dit bien que le courage est une vertu féminine. Elles le prouvent par leur existence même de femmes. Je me trompe ?
Non, vous avez tout à fait raison. Et puis surtout, il faut qu'on continue à parler d'elles, il faut qu'on continue à prononcer leur nom, il faut qu'on continue à leur
à mettre les bases de données, à mettre la base de données à jour.
Ça, ce serait super, mais bon, on a quand même bossé. Enfin, moi, pour ma part, plus de 3 ans sur l'enquête et les autres 4 ou 5 ans. Et c'est vrai qu'à un moment, on est arrivé aussi à des moyens limités. Faut pas se mentir, quoi. Mmh.
Mais pour des moyens limités, vraiment, d'avoir mis en avant le concept de femme à abattre, vous avez réussi pleinement votre coup, si je dis. Vraiment, parce que moi, j'avais vu penser l'enquête, et c'est une des raisons. Bon, Perrinco a accéléré l'invitation, mais déjà, je vous avais repéré pour cette enquête, parce que moi, je repère les gens à inviter, et après, par ordre de priorité, parce qu'on n'a que 2 émissions par mois, hélas, je dis aux camarades du groupe Louise Michel, on invite qui et dans quel ordre. Voilà. Ça anime nos émissions, nos réunions, parce qu'il faut, animer l'émission tous les 15 jours. Donc ça suppose un travail en amont de sélection et que les personnes soient contactées et qu'elles acceptent. Et on vous remercie que vous ayez accepté de venir dans notre émission.
Merci
sur notre entête. Merci. Alors là, on va peut-être donner la deuxième musique que vous avez choisie. Mm-hmm. Et après, on va passer sur le cas d'une junior pétrolière, Perenco. Kendong.
I am woman, hear me roar in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong,
strong.
I am invincible,
invincible.
I am woman. You can bend but never break me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepen the conviction in my soul. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom on a plane. Yes, I pay the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong,
strong.
I am invincible,
invincible.
I am woman. I am woman, watch me grow, see me standing.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Alors, je suis avec Rogiata Sall et Leila Mignano. Et là, nous sommes dans la dernière partie. Ouf! Allez, mesdames, respirons. La dernière demi-heure. Et là, nous allons parler pétrole et gaz. Alors, Leila, tu as fait une enquête remarquable et remarquée, surtout par des gens comme moi qui s'occupent de lutter contre la France-Afrique, au sein de Survie et d'autres associations, sur Perenco. Fantastique. Mais vraiment, les Perenco Files, vraiment, c'est une merveille. Tout y est. Ça va d'un groupe dans 14 pays, une famille, une seule famille, qui s'arrange pour passer sous les radars, parce qu'elle n'est pas cotée, elle s'est arrangée pour ne pas être cotée, jusqu'à une ministre de la Transition française, qui est chargée de faire sortir des fossiles la France, et dont les enfants sont les héritiers de Perenco. J'ai tout résumé? Allez hop, on y va. C'est parti.
C'est bien résumé.
Voilà, alors Leila, Perenco.
Perenco, donc du coup, on entend beaucoup parler, on a beaucoup entendu parler de sa grande sœur totale.
Voilà.
Mais Perenco, donc le numéro 2 du pétrole en France, le numéro 1 du pétrole en Europe indépendant, a réussi, au cours des 30 dernières décennies, à entièrement passer sous les radars. C'est-à-dire à ne faire l'objet d'aucun article de presse, d'aucune enquête journalistique, d'aucune poursuite judiciaire.
Oui.
Et pourtant, il y avait des choses à aller fouiller.
Ah oui, ça, c'est le cas de dire. Grâce à toi.
Grâce à moi, mon collègue Maxence Peignet, effectivement, tous mes collègues d'Investigate Europe, sur lequel, effectivement, nous-mêmes, on n'avait jamais entendu parler de cette entreprise avant de commencer à déterrer les dossiers les uns après les autres.
Mmh. Alors, c'est 14 pays. Elle est franco-britannique et c'est la famille Perrodo. J'ai bien résumé ?
Exactement.
Alors, le premier dossier, c'est RDC, virement suspect au premier cercle du président Kabila.
Ah, alors là, c'est plutôt le dernier.
Ah oui, pardon. autant pour moi.
Pas de problème. Le premier, effectivement, ça a été les révélations sur les intérêts cachés de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
J'ai inversé les dossiers. Pas autant pour moi. Alors, allons-y pour cette chère Agnès.
Très bien. Eh bien, figurez-vous que, comme très souvent chez les ministères du gouvernement, chez les ministres du gouvernement Macron, c'est des gens qui ont de très bonnes relations familiales. Mmh. Et c'est le cas de Agnès Pannier-Runacher, qui est effectivement la fille
Jean-Michel.
Exactement, de Jean-Michel Runacher, donc l'ancien directeur général puis directeur financier de Perenco. Et, par hasard, en cherchant ses intérêts à lui, on essaie de, effectivement, de remonter, grâce à des documents financiers, ses propriétés qu'il pouvait avoir en France, on s'est rendu compte qu'il avait placé de l'argent...
dans Arjunem.
Exactement, dans Arjunem, donc une société immobilière au profit de ses... trois petits-enfants mineurs. Donc du coup, mineurs, c'est-à-dire que ils sont...
Ils passent sous les radars.
Exactement. Et que finalement, c'est Agnès Pannier-Runacher qui a tous les droits pour disposer de cet argent.
Et elle n'est pas obligée de les déclarer à la Haute Autorité de la Transparence. C'est surtout ça qui était intéressant.
Exactement. Et elle a fait le choix de ne pas le déclarer. Après, elle n'est pas tenue selon la loi. La loi dit que c'est le conjoint. Donc, elle est obligée de déclarer les intérêts de son conjoint. Ce qu'elle avait fait, par exemple, parce qu'elle était mariée avec le directeur général d'Engie, par exemple.
Oui.
Elle a vraiment de bonnes relations. Mais elle avait omis de dire, puisqu'elle n'était pas obligée par la loi, de déclarer qu'elle avait des intérêts chez le numéro 2 du pétrole, alors qu'elle est, comme vous l'avez dit justement avant, censée faire sortir la France des énergies fossiles.
Oui, on va rigoler. Bon, ceci étant dit, ça a déclenché une belle tempête jusqu'à l'Assemblée.
Tout à fait.
Alors, je vous laisse aller sur Internet, regarder les réponses et la façon dont elle a été défendue par Elisabeth Borne en personne. J'ai tout bon.
Ça fait tout bon.
Parfait.
Effectivement, et ça a aussi débouché au fait qu'elle soit obligée de se déporter. Il y a un décret qui est sorti, donc déporter des affaires de Perenco, ce qui est complètement légitime, quoi. Et on peut pas travailler avec Perenco la journée et le soir rentrer chez soi et aller dîner avec le directeur général de Perenco.
C'est clair. Déjà, qu'elle soit mariée au directeur financier de Engie, déjà, j'ai trouvé ça un peu bon. Enfin, c'est pas moi qui décide des membres de vos gouvernements. Voilà. Congo, le clan Sassou, c'est le deuxième volet.
Deuxième volet, RDC, mais la version environnementale.
Ah oui, autant pour moi.
Tout à fait. Donc du coup, quelques jours après, on va sortir ce volet qui va montrer les pollutions graves qui sont commises par Perenco en République démocratique du Congo. Donc émissions de gaz, fuite de pétrole et effectivement dans une impunité totale.
C'est le cas de dire.
Jusqu'à notre enquête, puisque au lendemain de notre enquête, il y a les Amis de la Terre et l'association Sherpa qui vont lancer
une plainte
tout à fait contre Perenco pour ces violations
environnementale. Donc ça, c'est effectivement un des impacts du deuxième volet de l'enquête.
Alors, le troisième volet, c'est toujours à RDC, avec la parution, la suite de Congo Hold Up, les fichiers sur l'entourage de Kabila, ce sont les versements suspects du premier cercle via les paradis fiscaux. Ça commence à m'intéresser, ça. Bon, les auditeurs connaissent mon penchant pour les paradis fiscaux. Donc, je suis arrivée sur une émission sur les paradis fiscaux et dès que je peux, je leur parle de paradis fiscaux. Donc, ils savent quelle est ma position sur le sujet. Voilà.
Tout à fait. Surtout que Perenco fait partie de ces entreprises qui sont championnes des montages fiscaux avantageux. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les ONG butent pour les poursuivre, puisqu'effectivement, l'ensemble des avoirs des filiales de Perenco à l'étranger se trouvent aux Bahamas. Donc du coup, même si elle est basée, si le siège officiel est basé donc à Paris et à Londres, l'ensemble de leurs avoirs de leurs filiales est basé aux Bahamas, et donc ils disent nous, c'est pas nous, c'est-à-dire que nous on fournit juste de l'appui à ces sociétés qui sont basées aux Bahamas. Donc c'est un peu intéressant comme point de vue, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça marche pas non plus des masses auprès de la justice, cet argument. Donc du coup donc l'idée de l'enquête sur Perenco, c'est effectivement parler des violations environnementales, mais également de parler de ces montages fiscaux. Et en RTC toujours, donc là ils vont avoir donc deux filiales pour opérer. Donc c'est le plus gros pétrolier de RDC, étranger de RDC. Donc du coup il va avoir même plus que ça, quatre filiales qui vont opérer, donc qui sont soi-disant indépendantes et qui vont avoir des relations avec le pouvoir de Kabila, donc l'ancien kleptocrate de RDC, pour pouvoir obtenir toutes les autorisations. Donc ils vont lier ces relations très fortes avec le pouvoir en place, mais ils vont pas le faire qu'en RDC, hein, également
au Congo.
Exactement, au Congo-Brazzaville. Et donc, on va prouver, grâce à la base de données Congo Hold Up, donc qui est une base de données qui, à la base, a donné lieu à d'autres révélations qui
Tout
sont sorties l'année précédente. Et par hasard, on va demander à Mediapart de nous laisser consulter cette base de données pour voir si on pouvait trouver des trucs sur Perenco. On s'est dit, ce n'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Et on a cherché, et bingo, il y avait effectivement quelques trésors à l'intérieur de cette base de données, et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un virement très suspect qui avait été fait par les filiales de Perenco aux entreprises du gouvernement Kabila.
Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Congo Hold Up a été mis en ligne par le consortium qui est autour de Mediapart, qui est EIC. Je me rappelle jamais la composition
c'est
exacte.
C'est AIC, European Investigative Consortium.
Voilà, tout à fait. Merci.
Je vous en prie.
Merci, Leïla. Voilà. Et donc, c'est cette base de données, tous les opposants à Kabila, tous les opposants qui cherchent à prouver la kleptocratie autour de la République démocratique du Congo, se sont emparés avec bonheur. Ils ont pleuré de joie de voir enfin quelqu'un qui faisait le travail sur leur pays et qui expliquait pourquoi un pays aussi riche est aussi pauvre pour sa population. Je veux dire, tout est expliqué dans Congo Hold Up. Et si vous avez accès à Mediapart, allez-y, les articles sont parfaits. Alors, j'ai oublié de dire que les Perenco Files sont disponibles sur...
Alors, ils sont disponibles sur Investigate Europe, chez Disclose, aussi notre partenaire, et chez Mediapart.
Voilà, chez les trois.
Voilà.
Bien. Donc, on avait reçu les journalistes de Disclose lorsqu'ils avaient été convoqués à la DGSI.
D'accord. Depuis, ils sont emprisonnés. Les choses ne s'améliorent pas pour les journalistes de Disclose.
Non. Anne Lévrieux,
Ariane Lavrieux.
Ouais. Ariane Lavrieux peut en témoigner. Est-ce qu'on on sait ce qu'il en est arrivé de ces scellés? Elle a obtenu gain de cause avec le juge des libertés ou pas?
Non, il y a une partie de documents qui n'ont pas été saisis, mais une autre partie qui ont été saisis. Et de toute façon, enfin, quel contrôle peut-on avoir qu'on a aspiré l'ensemble de son ordinateur et de son téléphone sur savoir ce qu'ils ont au final ou pas?
Aïe. Bon, revenons à Perenco. Alors, la troisième enquête, le clan Sassou Nguesso.
Oui.
Ah, les intérêts cachés.
Exactement.
Donc, alors, On vous écoute.
Alors Leïla. Du coup, une enquête qui a été menée avec brio par mon collègue Maxence Peignet, donc mon collègue d'Investigate Europe qui est basé à Londres. Donc du coup, qui montre encore une fois les liens de Perenco avec le pouvoir en place. Donc cette fois-ci, on n'est pas en RDC, mais au Congo-Brazza et encore avec un clan kleptocrate, donc le clan Sassouen Nguesso. Donc il va montrer les investissements de Perenco dans un puits de pétrole, mais avec également avec une entreprise norvégienne, etc. Donc voilà, on balaye l'ensemble des...
Alors, il faut préciser que le clan Sassou, comme le clan Bongo, comme le clan de la Guinée équatoriale, comme le clan de Ben Ali, ce sont des noms qui reviennent dans ce qu'on appelle l'affaire des biens mal acquis.
Tout à fait.
Alors, BMA. Les BMA, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'ONG, un certain nombre de journalistes, un certain nombre de gens furieux, dont votre présentatrice, ont estimé que vu les sommes déclarées par les présidents pour leurs émoluments, à s'acheter une kyriade, une enfilade de maisons dans les beaux quartiers de Paris, c'était pas net. Surtout si les SCI sont toutes basées aux Bermudes, aux Bahamas, aux îles Caïmans, aux îles Vierges Britanniques et consorts. Quand c'est pas Monaco ou Andorre, carrément. Donc, ils ont saisi la justice. Pendant 10 ans, ça a été une bataille de procédure. Et enfin, il y a eu, pour la Guinée équatoriale, en tout cas saisie totale d'un hôtel particulier, avec des voitures, voire parmi les plus chères du monde, et vente aux enchères, et restitution au trésor de ces sommes. Donc, pour le clan gabonais, ça se complique. Parce que comme il y a eu chute du clan Bongo, donc on hésitait à leur faire un procès. Donc là, maintenant, on apprend que Pascaline Bongo est traînée au tribunal pour des affaires de dessous de table. Donc, avec un peu de chance, on pense qu'il y aura un procès dans les biens mal acquis pour le Gabon. Donc, il ne reste plus que le clan Sassou, le clan Ben Ali.
C'est vrai que c'est pas terminé, quoi.
C'est pas terminé. Et j'ai oublié Monsieur Biya.
Il y a
Biya.
La Syrie aussi.
Il y a la Syrie. Et j'ai oublié Monsieur Biya au Cameroun.
L'Égypte aussi.
L'Égypte, tout à fait. Donc, non. Mais ça, on est là-dessus. On ne lâche rien, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, l'autre. On revient à Perenco. Je vais y arriver. Au Gabon. Il y a aussi un dossier sur les pollutions cachées.
Exactement. Donc, qui a été mené notamment avec, surtout par ma collègue Ariane Lavrieux,
dont nous parlions.
Exactement.
C'est pour ça que j'ai tenu à faire un focus sur elle.
Il y a quelques minutes de ça. Donc, effectivement, qui montre encore une fois une violation environnementale impunie, et cette fois-ci une violation environnementale massive, d'une fuite de pétrole au Gabon. Et effectivement, voilà, encore le fait de Perenco et qui a priori ne remettra pas en cause la signature des futurs contrats.
Bien. Alors, les Perenco Files, on le rappelle, Mediapart, EIC,
Disclose. Et surtout Investigate Europe, en fait. La base, c'est Investigate Europe, mais vous pouvez les lire sur le site d'Investigate Europe, mais aussi sur Mediapart et Disclose.
Alors, je ne t'ai pas fait présenter Investigate Europe précisément. Est-ce que tu peux la présenter ?
Alors, Investigate Europe, c'est un consortium d'investigation à l'échelle européenne, donc qui nous permet effectivement d'avoir les moyens d'enquêter à l'échelle européenne et de publier un peu partout et dans plusieurs langues. L'affaire Perenco, par exemple, les Perenco Files, c'est publié en anglais, en espagnol, en allemand, en italien. Et donc, du coup, ça permet de donner une audience encore supplémentaire à cette affaire.
Je confirme, parce que pour avoir googlisé Perenco, pour voir quelle audience avait ce dossier, elle est mondiale.
Tout à fait.
Ils voient les perrodos. Ils peuvent...
Mais ce qui fait aussi plaisir, c'est que désormais, il y a des confrères et des consoeurs qui se sont saisis de Perenco et qui publient. Là, j'ai vu...
France Info, Benoît Colomba.
Voilà.
On va pas le citer.
Nicaragua, différents pays, Paraguay, plusieurs pays, des confrères qui effectivement citent de travail, mais qui maintenant se mettent à fouiller chez Perenco. Et grâce à Agnès Pannier-Runacher,
qui, grâce, enfin, je ne sais pas si elle dirait grâce, plutôt,
si, si, grâce.
Avec cette affaire sacrée, cette accroche à Paris qui fait que c'est pas juste, on va pas juste polluer en Afrique, en Amérique latine, mais il y a cette accroche qui la ramène toujours à Paris, qui rend le sujet plus populaire aujourd'hui, et ça c'est vraiment plaisant.
Tout à fait. C'est-à-dire que on se rend compte à quel point il y a une, comment dire, le terme exact que je, il y a une espèce de d'oligarchie des affaires politiques, des liaisons incestueuses qui font que quand on tire le fil d'un dossier, on tombe toujours sur la finalité politique. Et Agnès Pannier-Runacher, c'est exactement le symbole de ça, et Perrincot en est l'exemple typique.
Exactement, et moi et mes collègues, on rêve d'une sous-affaire totale, en fait.
Ah, ben, en parlant de Total, ce vendredi, le 20, sort la version de poche de l'excellent ouvrage qui est sorti en 2017 de Alain Deneau, qui s'appelle « De quoi Total est-elle la somme ?» Ouvrage qui lui a pris 3 ans de sa vie à écrire, 2 ouvrages en fait, sur Total. Et l'enquête, à l'époque, on espérait, parce que je fais partie des gens qui l'ont aidé dans cette enquête, on espérait un procès par Total pour pouvoir populariser. Et j'ai été même désignée pour aller au tribunal défendre l'enquête.
D'accord.
Bien. Total s'est bien gardé de nous faire un procès. Mais bon, comme depuis Total est devenu à la mode, et haïr Total est devenu à la mode, l'éditeur a eu la bonne idée de sortir une version poche moins chère, parce que la version brochée coûtait 23,90€, un peu cher. Par contre, la version poche va coûter 14,90€, elle sera accessible plus facilement à toutes les bourses, et vous avez l'intégralité de l'enquête, plus une nouvelle préface faite par Alain Deneau, philosophe de l'économie, qui est bien sûr devenu célèbre grâce à la médiocratie. Et donc, vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur Total. Et donc, vous pourrez, en toute connaissance de cause, vous opposer à Total et comprendre que les multinationales comme Total et Perrincot, on n'en a pas besoin pour se s'habiller, pour se nourrir, pour se chauffer, pour faire un certain nombre de choses. Et il faudrait peut-être commencer à se poser la question de les démanteler. Parce qu'elles deviennent des pouvoirs plus que souverains, elles sont plus fortes que des États et elles menacent la démocratie. J'ai bien résumé
complètement. Lisez l'ouvrage de poche d'Alain Deneau. Et aussi les enquêtes sur Perrincot, évidemment.
Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai fait 2 parties. Les féminicides politiques, il était important de passer au moins 1 heure là-dessus, parce que c'est un sujet tellement vaste et tellement poignant. Et merci, Rogiata. Rogiata, oh, je vais y arriver.
Rogiata, mais merci à vous pour l'invitation. Et puis,
Non, mais l'émission n'est pas tout à fait finie encore. On a encore un peu de temps. S'il faut retenir une chose par rapport à Perrincot, quelle serait-elle ? Je vous laisse la conclusion, chère amie.
Que c'est possible aujourd'hui de mettre la lumière comme ça n'avait jamais été fait avant. Aujourd'hui, l'état des consciences, je pense, environnementales notamment, du mouvement écologiste a permis ça. L'affaire Total aussi a permis d'ouvrir la voie. Donc aujourd'hui, ça a été possible et ça a donné de l'intérêt parce qu'on en est là à ce niveau de conscience. Je pense que si on avait sorti l'affaire Perrincot, peut-être, il y a 10 ans, 20 ans, il n'y aurait pas eu cet écho.
À
l'époque, on considérait qu'on pouvait aller aisément polluer, corrompre sur le continent africain sans que ça choque absolument personne. En Amérique latine, pareil, de toute façon, avec tous ces clichés de dire, alors en Amérique latine, de toute façon, si tu veux faire du business, il faut forcément passer par les mallettes de billets. C'est moins grave si on pollue l'Amazonie plutôt que si on va polluer notre
mer du Nord,
notre mer du Nord, même si eux ils ont pollué également mer du Nord, puisque
pollue la mer du Nord,
et ils ont eu quelques problèmes il y a quelques mois de ça en mer du Nord. Et donc du coup aujourd'hui c'est possible que des enquêtes comme Perrincot aient un impact dans l'opinion publique et fassent l'objet peut-être de décisions de justice. Il n'y a pas seulement la plainte des Amis de la Terre qui est aujourd'hui sur la table et de Sherpa. Il y a également il y a des perquisitions qui ont été menées au parquet national financier, donc plusieurs descentes qui ont eu lieu au printemps.
Oui.
Et donc du coup, là, on est sur de l'affaire de corruption d'agents étrangers sur le continent africain.
Tout à fait.
Donc du coup, potentiellement, l'impunité est terminée. Et ça, ça donne effectivement de l'espoir.
Merci. Merci, Leïla. Merci. Alors, Roquetta, pour les féminicides, merci. Tu vas peut-être nous parler de ta prochaine enquête, non ? Ou c'est trop tôt ?
En ce moment, j'ai un peu pris le large de l'investigation. Je travaille plutôt sur des fictions historiques.
Alors, laquelle ?
J'ai travaillé sur Tirailleurs, le film de Mathieu Vadepied. Là, j'ai travaillé sur un film qui n'est pas encore sorti.
Alors,
sur
le film, on n'a pas bien entendu le nom.
Le film Tirailleurs de Mathieu Vadepied sur les tirailleurs des soldats noirs de la Première Guerre mondiale, notamment, dont on parle.
Oui.
Et je travaille aussi pour Contre-Jour, une revue qu'on a lancée avec le collectif La Friche, qui est basée sur nos ateliers d'éducation populaire aux médias, qu'on fait un peu partout en France.
Ça, c'est important, parce que les médias, c'est très important. J'ai reçu Pauline Perrenot d'Acrimed, qui nous a expliqué à quel point les médias étaient contre la gauche, et qu'il fallait éviter d'aller sur les médias dominants, et qu'il fallait venir dans ce qu'on appelle les médias du tiers secteur, c'est-à-dire qui sont ni publics ni privés, mais les médias comme les nôtres. Donc, on vous remercie d'avoir fait ce choix, vous aussi, à vos risques et périls.
Merci.
Et sur la
Donc, oui, je travaille sur un film sur l'esclavage, sur les marrons à l'île Maurice. Et aussi, donc, pour cette revue contre-jour. Et puis après, les enquêtes, je pense qu'on reprendra un petit peu plus tard, peut-être. Mais je voulais aussi rappeler un peu on parlait tout à l'heure on a présenté le collectif YouPress, mais parler aussi des spécialités des autres journalistes. Il y en a beaucoup qui ont travaillé sur les violences sexuelles, notamment Cécile à l'hôpital, Sophie plutôt dans le monde de la police et de la gendarmerie, qui sont commises par des membres des forces de l'ordre. Et c'est vrai que c'est aussi leur travail qui a amené à cette enquête collective, quoi, parce que ça fait des années que vous travaillez sur le sujet. Il y a tellement à faire.
Et par ailleurs, avec Fama Abbas, on a organisé plusieurs rencontres dans le 19e, mais aussi dans le 20e.
À la Flèche d'Or, oui.
Exactement, avec en France des militantes qui sont menacées ou ont déjà été victimes d'agressions physiques pour leur combat. Donc, si vous voulez être tenu au courant, on a une newsletter, vous nous trouvez assez facilement
Femme
sur Internet. Femme Abba, tout à fait, vous inscrivez à la newsletter et pour être tenu au courant de ces rencontres, si vous voulez envie d'assister en physique et échanger avec nous sur le sujet.
Merci beaucoup, Leïla. Merci, Roguiata. J'y suis arrivée. Très génial. On peut terminer l'émission. Tout va bien.
Merci à vous.
Bien. Non, merci à vous. Alors, Kendong, nous allons terminer l'émission. Je vous remercie, chers auditeurs, d'être fidèles à notre émission tous les 15 jours. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je vous demande de faire attention à vous par des temps qui courent. Faites vraiment attention à vous. Portez-vous bien et je vous dis à dans 15 jours. Merci.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027. Un cœur rouge, il y aurait d'un gain, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes. Qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casser les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai. Afrique, j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi, je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi, interdit le territoire, j'y vais à peine la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure, ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi à sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins? Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Les vœux du président, l'inflation qui galope, le droit des paysans, les bienfaits de la pub, le trou de la sécu, les affaires qu'on éluse, le serment des élus, l'égalité des droits, et la fraternité, la liberté de choix, la retraite et l'armée, la légalisation, de tous les sans-papiers, l'alcool et la prison, la parité, la paix, c'est comme si tu me disais... Que les curés sont des Hamlets, ta mère est Polac. Que demain c'est du sable mou, que Giscard est anglais. Que les femmes de banquier s'apprêtent, que sous chaque matraque se cache un cœur de guerrier mou. C'est comme si qu'on chantait que dans le poisson y'a pas d'écailles. Que les amours s'appliquent, que les orties font mal aux dents. Comme si qu'on travaillait pour faire reculer le travail. Que Baldo fait du fric, que l'Unédic n'a pas d'argent. C'est pas vrai, etc. C'est pas vrai, etc. C'est pas vrai, etc. C'est pas vrai, etc. L'école et la santé, la culture et l'éthique, les pots des conseillers, le vin, la génétique, les chiffres du chômage et l'insécurité, le budget des ménages, les stars à la télé, la bourse et l'Europe, les vœux du président, l'inflation qui galope, le droit des paysans, les bienfaits de la pub, le trou de la sécu, les affaires qu'on élude, le serment des élus, l'égalité des droits et la fraternité, la liberté de choix, la retraite et l'armée, la légalisation de tous les sans-papiers, l'alcool et la prison, la parité, la paix, c'est comme si qu'on faisait de la confiture de poubelle, de la purée d'asphalte, à la terrasse d'un réverbère, comme si que je chantais. La vie est belle, le monde est beau, la terre est une tomate, et ma grand-mère fait du roller. C'est comme un soir de frère à la lueur d'un croissant rouge, un tennis à Bagdad, une étoile à la Maison Blanche, comme péter dans la mer, comme écrit sur un drapeau rouge, que Sharon est vivant, ou qu'Obama a les mains blanches. C'est pas vrai, etc. C'est pas vrai, etc. C'est pas vrai, etc.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays.
Bonsoir, 89.4 Radio Libertaire, et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai une crève pas possible, mais on espère que ça va bien se passer. Alors, l'émission de ce soir est consacrée à la Technopolis, avec la quadrature du net. Vidéosurveillance algorithmique, prise de contrôle à distance par la police des appareils électroniques, fichage massif de la population, suspicion de terrorisme à l'égard de ceux qui essayent de protéger leurs données, le filet de la Technopolis se resserre inexorablement sur nos vies. Avec Nono de la Quadrature du Net, association qui lutte depuis des années pour la défense des droits et libertés fondamentales dans l'environnement numérique, on va faire un point sur la situation et voir comment on peut y résister. Voilà. Alors, Nono, je voudrais déjà juste savoir où en est la plainte collective qui a été déposée en 2022, si je ne m'abuse, contre la Technopolis, qui a un peu plus de 10 000 plaignants. Ça en est où, cette histoire ?
Tout à fait. Du coup, bonsoir à tout le monde, déjà.
Bonsoir.
Merci de m'avoir invité, évidemment. Du coup, la plainte... en effet, on était 15 000 et quelques à la signer. Et du coup, maintenant, si j'ose dire, elle est perdue dans les limbes de l'administration. Pas de notre ressort, pour le coup. C'est la CNIL à qui on a déposé le dossier, qui maintenant est en charge de regarder la plainte. On a eu quelques nouvelles. On nous a déjà posé la question assez récemment, en fait, de où ça en était, et malheureusement je dois vous donner la même réponse qu'on a donnée, c'est que pas très loin. On n'a pas eu beaucoup de retours sur cette plainte en question. Donc pour rappel, c'était sur plainte.technopolis.fr. on avait déposé une plainte où on attaquait la vidéosurveillance algorithmique, la VSA, et l'idée c'était de montrer que voilà, il y avait un débat autour de cette question et que c'était pas juste une nouvelle technologie qu'on allait se contenter d'accepter, quoi.
D'accord, donc là c'est on attend.
Voilà, c'est ça. Pour le moment, le dossier est en train d'être instruit et nous, pour le coup, on n'a pas beaucoup de retours. Il y a une certaine opacité qu'on dénonce depuis très longtemps autour de la CNIL, autour de